11h, 12h30.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1. Il pense que ce n'est pas la taille qui compte, d'ailleurs ses ex l'appellent toute l'acupuncteur. Bernard est avec nous.
Ça commence bien, bonjour Anne, bonjour la France.
C'est un poète des temps modernes, incompris de son vivant. On étudiera peut-être ses chroniques au bac de philo 2119. Ouais. Michael Quiroga est avec nous.
Bonjour, bonjour.
Il rêve de surveiller une épreuve du bac juste pour avoir le plaisir de dire vous avez 4 heures, le professeur François Guédon.
Et je rappelle que les calculatrices ne sont pas autorisées.
Il aurait pu avoir son bac avec mention très bien s'il avait révisé avant les épreuves et non après. Le désorganisé Jean-Philippe Vizini.
Est-ce que c'est ça qui rend vraiment heureux? Bonjour les amis, bonjour, bonjour à tous.
Et celle qui souffre de cette météo changeante, elle n'en peut plus de mettre des tongs avec une doudoune, Anne Romanoff.
Au sommaire de cette émission, Jean-Philippe Vizini nous racontera sa journée à la kermesse de l'école. À 11h30, nous recevons la réalisatrice et écrivaine Laetitia Colombani, auteure de La Tresse vendue à plus d'un million d'exemplaires, qui viendra nous parler de son nouveau roman Les Victorieuses, paru aux éditions Grasset. François Guédon nous parlera de la profession d'un des personnages du livre Écrivain public. Et à partir de 11h50, nos invités seront l'actrice Anna Mouglalis et l'acteur et réalisateur Xavier Legrand, tous les deux sur scène dans la pièce Mademoiselle Julie, actuellement au théâtre de l'Atelier à Paris. Ben H nous dira pourquoi la pièce l'intéresse forcément.
Oui.
11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Aujourd'hui, les élèves passent l'épreuve de langue vivante. Today, listen, are passing.
Oh là là,
the living language.
C'est la première fois que je vois quelqu'un se faire une entorse à la langue.
Est-ce que vous êtes doué en langue? Do you speak English? Est-ce qu'il y a une langue étrangère que vous rêveriez de parler parfaitement, Michael?
Ah ben moi, je voudrais bien parler couramment le Macron.
C'est une langue vivante, ça?
Non, c'est une langue de bois.
Jean-Philippe?
Ouais, moi, je vous jure que c'est la vérité. J'ai passé l'épreuve d'anglais du bac à l'oral et pour vous dire à quel point j'étais nul, la prof, elle m'a dit « Hello, good afternoon ». J'ai répondu « Quoi ?»
Vous avez eu combien?
Parce que, ben, elle m'a mis 4 parce que j'étais sympa, parce que ça valait 0, elle m'a dit.
4 sur 20?
Ouais.
Ah ouais.
Mais j'étais pas bon en anglais. Parce que moi, je connaissais hello, au revoir, c'est goodbye.
Ce qui est bien, c'est que t'as progressé avec les années néanmoins.
Mais good afternoon, tu vois, il y a le piège, tu l'as pas vu venir celui-là. Parce que je l'ai passé à 14h, tu vois. Là, je mets good morning, hello, ça me... Good afternoon, elle me sort. Je suis quoi? Là, elle m'a dit, ça veut dire bon après-midi. J'ai dit, ah ouais, ok, je pars mal, je pars très mal.
François?
Très, très mal.
Vous savez, moi, je n'aime pas que la langue de Molière, j'aime aussi la langue de Shakespeare ou de Goethe.
Ah bon, vous parlez allemand, qu'est-ce que vous savez dire?
Ich bin eine Kartoffelsalat.
Ce qui veut dire?
Je suis une salade de pommes de terre.
C'est pas vrai, d'ailleurs, vous avez minci, là.
12 kilos depuis janvier.
Mais comment ça se fait? Comment vous arrivez?
La dépression.
C'est le prélèvement à la source.
Alors?
Non, j'ai changé mes habitudes alimentaires, j'ai commencé à faire du sport, je fais de la marche, beaucoup de marche en ce moment. 7 à 10 kilomètres par jour.
Ouais, jusqu'à chez Nicolas. Et après,
allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Demain, les bacheliers passeront leur épreuve de sciences économiques et sociales et nous avons pu nous procurer le sujet qui est le suivant. Macron est-il de gauche? Pas sûr que 4 heures suffisent.
D'après un sondage, 83% des Français se disent économes. Mais vu qu'il y en a aussi une majorité qui se plaint de la baisse du pouvoir d'achat, ça peut faire une bonne question pour le bac philo. Comment peut-on économiser de l'argent qu'on n'a pas? Vous avez 4 heures et le gouvernement, lui, il a 3 ans.
Marine Le Pen s'est dit prête à discuter avec les militants Les Républicains. Ah, le problème, c'est que pour discuter avec eux, il faudrait d'abord les retrouver, les militants républicains.
À Nice, des centaines de produits contrefaits ont été saisis sur une foire commerciale. C'est pas beau de parler des niçoises comme ça. En plus, c'est injuste. C'est pas parce qu'elles font attention à l'effet de la gravité sur leur poitrine, leur front, leurs joues, leur nez, leur ventre, leurs genoux, leurs fesses et leurs chevilles qu'on peut les saisir en toute impunité. Honte à vous!
Scandale, un couple italien aurait usurpé l'identité de George Clooney. C'est la douche froide pour beaucoup et notamment pour notre chère Anne Romanoff qui pensait vraiment avoir décroché un dîner avec l'acteur américain.
70% des Français se disent prêts à voyager dans un avion autonome. En même temps, depuis l'élection de François Hollande, les Français ils ont pris l'habitude d'avancer sans pilote.
Europe.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Michael Quiroga, Jean-Philippe Vizini, François Guédon, Ben H. Et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour Thalasso pour deux personnes en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
Anne Roumanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1 avec Mickaël Quiroga, François Guédon, Ben H,
bonjour.
Jean-Philippe Vizini.
Ouais, bonjour.
Il n'y a pas de filles aujourd'hui.
Non. Si, il y a vous quoi. Enfin,
oui,
y a
moi, mais je
oui
veux
bon,
dire...
bah, il n'y a pas de filles en fait. Ouais, c'est vrai.
Non, mais...
Quel méchant.
Mais Mickaël, j'aimerais
il est fielleux.
Il pourrait me dire des choses gentilles de
allez-y.
Temps en temps.
30 secondes de gentillesse.
Oui, allez-y.
Là, comme ça,
oui,
sans prévenir,
ouais.
Sans réviser.
Top
chrono, allez.
Vous avez un sourire radieux ce matin, patronne, et votre chemise match avec le bleu de vos yeux qui sont tellement marrons. Je vous connais pas en fait en compliment.
Bah, je vois bien. Ah, pas
non, en plus,
femme.
C'est mal joué en plus.
Ouais,
on sent qu'il
le
croit. Il y croit pas.
Non, mais moi, les femmes viennent pas pour la tchatch. Il n'y a pas écrit Benach.
Je vois pas pourquoi tu dis ça.
Elles viennent pourquoi les femmes?
Pour la part du 16e arrondissement.
Pour mon caniche.
Pour le caniche.
Voilà, ouais.
Je sais pas, mais là, on le connaît depuis un moment, Mickaël Quiroga.
Oui.
À l'heure où je vous parle, on ne l'a jamais vu accompagné.
Ah c'est oui. Vrai, c'est fou.
Et même sans son blouson non plus. Hein. Il est toujours sur le départ. Hein.
Toujours sur le départ.
Ouais, il a l'impression qu'il est en cavale. Tu vois.
On l'a jamais vu accompagné. Si, l'inspecteur de police, ça compte.
Ça compte quoi, ça compte pas.
Il nous fait toujours miroiter qu'il a une vie super, en ouais. Fait. On sait
mais
pas. Hein.
Moi, il me parle d'une rousse depuis 2 ans. Jamais vu.
Il y a effectivement une rousse et je n'en dirai pas plus.
Ah,
que de mystère.
Comment elle s'appelle?
Elle s'appelle
Mylène, elle fait de la chanson.
Voilà.
Il préfère rester.
C'est tout,
on est discret.
Voilà. Discret.
Elle remplit des voilà. Élites partout et voilà.
Mais je ne vous donnerai pas le nom de famille. Voilà. C'est
qui veut dire paysan en anglais.
Voilà, mais c'est
mais
tout.
On en
mais
c'est tout. Oh, mais t'es pas si bon avec ça finalement en anglais.
J'ai progressé.
C'est le moment de notre jeu, Jean-Philippe. Comment s'intitule-t-il?
Devinez qui je suis.
Europe 1, Anne Roumanoff.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Cette semaine, tentez de gagner un séjour pour 2 personnes. Détente, bien-être, évasion à l'hôtel 4 étoiles, Thalasso Spa, les Flamants Roses, à Canet en Roussillon, proche de Perpignan. 2 nuits en formule petit déjeuner avec 2 demi-journées de cure de remise en forme par personne. Modelage sous infusion, bain multijet, chromothérapie, hydrojet, aquagym.
Aquagym. J'étais au Club Med avant, c'est pour ça. Ouais. Allez, on y va à l'aquagym.
Avec... Non mais là, c'est pas l'aquagym comme ça.
Ah, c'est, pas... ah, c'est plus
c'est
chic.
Élégant.
C'est aquagym.
Aquagym, alors doucement, Janine. Ah, j'imagine.
Avec accès à l'espace marin, hammam, sauna, salle de fitness. Plus d'infos sur www.hôtel-flamand au pluriel.
Ah, il y a plusieurs flamands.
Bah oui, il y a plusieurs flamands.
Bah oui,
www.hôtel-flamand-rose.com. Et on joue d'abord avec Karine. Bonjour Karine.
Bonjour Anne. Et bonjour,
bonjour
l'équipe.
Bonjour
Karine. Vous avez 46 ans, vous êtes assistante de direction à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, ma chère. Mmh. Et vous habitez à Garennes-sur-Eure dans l'Eure.
Oui.
Et vous allez travailler tous les jours à Paris en train, 1h20 de train tous les jours.
Presque, sauf le vendredi où je suis en télétravail.
C'est beaucoup de...
De train.
Du coup, vous nous écoutez dans le train?
Oui, et surtout en podcast le week-end.
Vous partez à quelle heure le matin de chez vous?
5h30.
Et vous arrivez au travail à quelle heure?
18h30.
Comment?
Je commence à 7h, mais après je finis à 3h30, donc c'est un choix.
Ah ouais,
ça va.
Ah ouais, mais quand même, 7h du matin, mais qu'est-ce que vous faites à 7h du matin?
Eh ben, je travaille, je lis mes mails que j'ai pas lus le soir en part... parce que je pars plus tôt, il se passe des choses après mon départ. Donc non, c'est une organisation.
Mais les bureaux sont ouverts à 7h du matin ou c'est vous qui avez demandé ces horaires-là?
Non, c'est possible.
Mais on ne choisit décemment pas de rentrer à la fonction publique pour se lever à 5h30, madame.
Qu'est-ce qu'elle serait prête à inventer pour partir en thalasso? Alors qu'elle habite Saint-Germain-des-Prés.
Et votre mari, il râle pas quand le réveil sonne à 5h30 du matin?
Ah, mais il est déjà parti depuis 3 heures, vous savez.
Il est boulanger, le gars.
Sur un chantier en Sibérie, c'est pas facile.
Lui, il dort?
Lui, il dort à ce temps-là, mais il se réveille pas longtemps après, parce que lui, il faut qu'il gère les enfants le matin, moi je les gère le soir, finit tard.
Et puis c'est lui qui réveille le coq et tout, donc ça fait du boulot.
Bon, vous jouez avec qui, Karine?
Je voulais jouer avec vous, Anne.
Oh là! Je suis pas très bonne, moi.
Ah, c'est dommage.
Ouais, c'est dommage.
Liste 1 ou liste 2?
Oh, on n'est plus à ça près. Hein.
Franchement. Tapez au hasard. Hein.
Comment?
Ils sont moqueurs. Hein.
Alors, ouais, oui, liste 1 ou liste 2?
Un peu d'expérience aussi, quand même. Hein.
Comment?
J'ai dit la 2.
La 2?
3, 2, 1, c'est parti!
C'est un chanteur anglais qui a chanté lors de la mort de Lady Di. Il a des grosses lunettes.
Elton John.
Oui, elle chante à la Corotel, à l'Arena. Je suis libertine. Elle est rousse. C'est une chanteuse.
Mylène Farmer.
Oui, c'est un des inconnus. Il fait plein de cinéma. C'est celui
Bourdon,
qui.
A... Didier Bourdon.
Voilà, c'est ma philosophie. Comme je suis, c'est une chanson écrite par Diam. Voilà. On s'en fout. On n'y va pas. C'est un chanteur. Il veut jamais aller dîner chez les gens.
Benabar.
Voilà, très bien. Il joue dans Notre-Dame de Paris. Il a une voix très rauque, très sexy.
Daniel Lévy.
Non, celui qui est québécois. Voilà, très bien. Elle a un nom que Nico Salagas n'avait pas réussi à prononcer. Aux Energy Music Awards.
Aya Kamura.
Voilà, très bien.
Non.
Elle chante. C'est une chanteuse un peu dans la lignée de Piaf, très gouailleuse. On s'est beaucoup moqué d'elle. C'est un nom en trois lettres.
Je veux.
Oui.
Oh, mais c'est un carton. Mais les règles sont.
Non, mais là.
7, 8,
je connais.
Fire. On a changé les règles du jeu, visiblement.
8.
Bon, 7,5 parce que Zaz était sur le
goal. Ah, mais là, va y avoir une avenue à votre nom, Anne.
La parole.
Donc, on va.
Je suis pour qu'on rebaptise les Champs-Élysées, Anne Roumanoff.
Vous savez,
vous avez...
Non, mais incroyable. Anne Roumanoff, là, vous avez fait en une fois plus de points que toute l'année.
Mais Karine, on était connectés, vous avez répondu super vite. Bravo.
Bravo, Anne, merci.
Voilà. Et Zaz, j'avais plus la tête, sa chanson, c'était quoi?
Je veux de l'amour, de trucs. Et du shampoing, du machin chouette, plein de choses.
Et donc, on va dire qu'on a 7 bonnes réponses. Est-ce qu'on accorde Zaz?
Oui.
Quoi?
Non, il y a les règles avec les chroniqueurs et les règles avec Anne Roumanoff, visiblement.
On a 7,5 points.
Voilà. On attend de voir si le suivant est sympa ou pas.
Voilà. Non, mais 7 points, c'est.
S'il travaille aux impôts, on dit que c'est 8.
On va voir comment se débrouille. Étienne, vous avez 22 ans, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes étudiant en médecine à Lyon en fin de troisième année.
Oui, tout à fait, c'est ça.
Vous l'êtes médecin généraliste?
Oui, tout à fait, oui.
Et alors en plus, vous avez plein de qualités, vous faites du tennis en club 2 fois par semaine, vous aimez cuisiner le chili con carne.
Né carné.
Étienne, vous êtes célibataire depuis 2 ans, on ne dit pas ça à 22 ans, on n'est pas célibataire à 22 ans, enfin... Vous aviez eu une histoire d'amour qui avait duré longtemps avant, à votre jeune âge?
Non, pas spécialement non plus. Non.
Ah ouais, ça n'a jamais duré. C'est quoi votre maximum?
Le temps du week-end d'intégration.
C'est quoi votre maximum?
6 mois.
Ah oui, quand même. Bah, c'est bien déjà, 22 ans, 6 mois.
Hein, c'est trop même.
Ouais, c'est
moi, j'ai jamais dépassé les 6 mois. Hein.
Même maintenant?
Même maintenant.
Ah ouais. Ah ouais, là, il faut plus s'inquiéter quand même. Parce que vous avez quel âge, François Guéron, je me rappelle?
29.
Plus. Mais j'arrive pas à comprendre qu'il trouve pas de femme. Parce que
je l'ai vu en maillot de bain.
C'est un gars super gentil, qui est à l'écoute. Sympa, c'est
vrai
exactement
qu'il est,
tout ce que
il est vraiment gentil, ça c'est vrai.
C'est dommage qu'il soit moche parce que sinon.
Il manquait pas grand chose.
Ah, les salauds!
Étienne, vous jouez avec qui?
Jean-Philippe.
Ouais, 8.
Attention, faut dépasser 7 réponses et demie pour gagner ce week-end en Talasso. Attention, top chrono.
C'est le chanteur qui chante Donnez-moi.
Je passe.
Si, oh non. Elle joue dans l'équipe du Splendid. C'est la femme qui est coincée dans l'ascenseur de Père Noël est une ordure. Sa fille, c'est Marie-Lou Berry.
Bon, il y a quelqu'un qui vous chuchote.
Le chanteur de police, il s'appelle comment? Une chanteuse qui chante Joe le Taxi. C'est pas gagné, hein. Joe le Taxi. Ouais. C'est Chouchou et Loulou, le mec, il a eu un Oscar pour The Artist.
Dujardin.
Ouais. Elle est fait sur France 2, c'est elle qui enquête partout, là, sur Envoyé spécial.
Élise
Lucet. Ok. Ça, c'est trop, catastrophe.
La victoire modeste.
Catastrophe.
Ah, l'étudiant en médecine qui se la pète, ouais. 3e année, 4e année à 22 ans. Et ça va, on connaît pas Enrico Macias, Josiane Balasco, Sting. Hey. En plus, il y avait quelqu'un qui vous soufflait.
Ah, il y avait toute l'université derrière. Et c'est ça qui nous soigne, et ben dis donc.
Qui est-ce qui vous soufflait, Étienne?
C'était une amie à côté de moi.
Ah, une amie. Une amie, bien sûr.
Et ça fait 6 mois?
Je crois que le séjour est amplement mérité pour la candidate. Je pense qu'elle le mérite bien, oui.
Bah oui.
Ah, il essaie de bah
vous, reste êtes, vous, êtes, joueur. Vous restez sympathique.
Ce fair play vous honore.
Mais vous avez quand même été très mauvais.
Oui, c'est vrai. Effectivement.
Heureusement que vous êtes plus. J'espère que vous êtes plus performant pour les. Il y a un enfant?
Non, il est au bloc.
Il est au bloc opératoire, ils ont mis l'anesthésie, tu sais. Comme c'est ils étaient pris dans le jeu.
C'est quoi ce hurlement qu'on vient d'entendre?
C'est un patient.
Non, c'était une porte. Non, c'était pas une porte. Non, il n'y a pas d'enfant, je vous rassure.
Faut la soigner, votre porte.
Bravo, Karine.
Oui. Bravo. Merci, Anne. Et bravo, Anne.
Un cri de joie.
Oui.
Oh, non. Bref et intense.
Alors, on dirait un orgasme.
Ah bon, elle a des orgasmes comme ça, ta
femme? La mienne, oui. Elle a un côté, elle se dégonfle. Ça y est, il a fini. Eh ben voilà, on va pouvoir remettre la télé. Oh là là.
Je sais pas si c'est bon signe, hein, ce bruit.
Ouais, ben on prend ce qu'on a. Voilà, dans la vie.
Avec ce qu'on a.
Savoir ce qu'on tente.
Alors, vous avez gagné, Karine, un séjour pour deux personnes à l'hôtel 4 étoiles Thalasso Spa, les Flamants Roses à Canet-en-Roussillon, proche de Perpignan. Deux nuits en formule petit déjeuner avec deux demi-journées de cure de remise en forme par personne, avec accès à l'espace marin, hammam, sauna, salle de fitness. Plus d'infos sur www.hotel-flamand-rose.com.
Génial.
Et puis ça va vous faire oublier tous ces matins, vous vous levez à
5h30. Parfait.
Enfin, le premier bain de boue est à 6h.
Hein. Vous jouez avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec François Guédon, Ben H, Mickaël Quiroga et Jean-Philippe Vizini qui n'a pas très bien vécu la kermesse de l'école de ses enfants. Il nous racontera.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Mickaël Quiroga, François Guédon, Ben H, Jean-Philippe Vizini.
Bonjour. Que des beaux gosses autour de la table.
C'est une émission spéciale beaux gosses. C'est vrai.
Que des hommes qui sont tous tellement beaux.
Virils.
Vous êtes bien entourés.
Oh là là, mais je sais pas où donner de la tête.
Nous, pareil, hein, avec un mannequin comme vous.
Premier vrai compliment de l'émission.
Là, c'était une blague pour le coup.
J'ai une amie qui a écouté aujourd'hui. Ah, dis donc, vous vous taquinez bien entre vous. Je dis bah oui.
Ah ouais, il n'y a pas de filtre. Hein.
Alors, d'après un sondage, 83% des Français se disent économes. Et parmi ces économes, 51% assument même le fait d'être radin. Est-ce que vous êtes économe tendance radin? Est-ce que vous avez déjà été en couple avec quelqu'un de radin, Jean-Philippe?
Moi, j'ai des voisins que j'embrasse, qui m'écoutent, qui sont hyper radins. On a fait un barbecue, tout le monde devait rapporter quelque chose. Ils sont arrivés, ils m'ont dit, tiens, on vous a rapporté le sel.
C'est vrai, c'est vrai.
Je vous assure.
Est-ce qu'ils ont repris le sel en partant?
Bah oui, après.
François?
Ah non, moi je ne suis pas radin. Moi, je suis même quelqu'un de très généreux. Par exemple, quand j'ai une petite amie, je l'invite souvent à des expositions.
Mais pourquoi à des expositions?
Bah parce que c'est gratuit. Ah bah ouais. Je suis pas fou.
Mickaël?
Mais il y va pas souvent parce qu'il a dit quand j'ai une petite amie.
Oui.
Mickaël?
Ah ben moi, à une époque, j'étais avec une fille qui était très radine, trop radine.
Radine jusqu'à quel point?
Elle avait le PQ.
Oh.
Mais non mais.
Mais c'est écolo.
C'est dégoûtant, les gens nous écoutent en faisant à manger.
Mais il est propre le PQ après.
Oh, on peut pas dire des choses comme ça. D'accord. Mickaël, excusez-vous.
Je m'excuse. Enfin, je vous prie de bien vouloir m'excuser.
Surtout tous ceux qui sont en train de faire à manger.
Surtout tous ceux qui sont en train de faire à manger. Sinon, le PQ, vous l'avez à 30 degrés.
Ben H.
Il faut le repasser ou pas?
Moi, j'ai la moitié de mes copines, moi, qui me trouvent radin.
Et vous êtes radin?
Forcément, vu tout ce que je dépense quand je les trompe avec l'autre moitié de mes copines. Oh ça.
Jean-Philippe, vous avez passé un moment difficile avec un mess de l'école?
C'était horrible. Chaque année, au mois de juin, tous ceux qui ont des gosses le savent. C'est le moment que tu redoutes le plus. C'est la kermesse. Ça a commencé la veille au soir à la maison. J'ai passé la soirée à essayer de faire une quiche. C'est parce qu'il faut faire des quiches, il faut ramener des trucs. Hein. Le lendemain, à la kermesse, j'avais faim. Et ben, j'ai dû payer 5€ pour manger une part de ma quiche. Comme en plus, elle était un peu foirée, ma quiche, à la fin de la kermesse, comme personne n'en a voulu, ils l'ont mis en solde. Ah, j'étais vexé. Hein. Alors aussi, il fallait aussi amener un cake fait maison. Ils veulent que du fait maison. Hein. T'as pas le droit de... Alors, comme je suis nul en pâtisserie, j'ai triché. J'ai pris un cake chez Picard. Je l'ai ramené, mais comme il fait moche en ce moment, il a pas voulu décongeler ce cake. Ensuite, ils m'ont mis au stand de maquillage. Faut participer dans les kermesses. Hein. Il y a un gamin, il arrive, il me dit je vais être maquillé en Pokémon. Moi, je sais pas ce que c'est. Je savais pas trop comment faire. J'ai mis tout en orange. Il est reparti, on aurait dit Donald Trump, le gars. Du coup, ils m'ont mis au stand pêche à la ligne. Alors là, c'était horrible. J'étais en plein cagnard devant la piscine remplie de canards en plastique. À un moment, c'était plus fort que moi. J'ai plongé, je suis allé nager avec les canards. Ensuite, ils m'ont mis au stand barbecue. Alors là, voilà, comme j'étais tout mouillé, j'en ai profité pour me faire sécher. Par contre, après 3 douches et 3 shampoings, je sens toujours la saucisse aujourd'hui. À la fin de la journée, j'en pouvais plus, j'avais qu'une envie, c'était de me barrer de là, mais impossible, faut rester jusqu'au bout parce qu'il y a le tirage de la tombola. Alors là, c'est le moment horrible. La tombola, ça coûte en moyenne 20 euros le ticket. Sachant que le plus gros lot, c'est un paquet de 4 crayons de couleur. Ou alors, tu peux gagner, ça c'était le gros lot, je vous jure, c'est vrai, c'est une entrée pour un enfant au zoo de Beauval. Sachant qu'on est 4 dans la famille. Fais le calcul et que du coup, pour y aller, tu vas devoir prendre une nuit à l'hôtel Ibis, l'aller-retour en bagnole et les 4 entrées qui restent, ça fait 600 balles pour aller voir un panda. Après ça, je vous assure, je comprends mieux les parents qui poussent leurs enfants à bien travailler à l'école, quitte à leur payer des cours du soir pour pas que l'enfant redouble, parce que s'il redouble, la kermesse, tu te la retapes une année de plus.
Alors moi, j'ai vécu beaucoup de kermesses d'école, c'est tout à fait ça. Et j'ai un conseil à donner aux parents. Quand on n'arrive pas à faire des gâteaux maison et qu'on est nul, on peut aller dans une pâtisserie et vous amener un moule à gâteau de chez vous. Vous mettez la tarte de la pâtisserie dans le moule et tu recouvres de papier d'aluminium, ce qui donne un côté véridique.
Il faut enlever l'étiquette. Il faut enlever l'étiquette avec l'adresse sur le gâteau. Parce que
Alors voici, on est en plein bac en ce moment, il y a l'oral du bac qui approche. Voici des phrases qu'il faut éviter de dire à l'examinateur pendant l'oral du bac.
Alors si je peux citer Karl Marx,
oui, bien sûr.
Karl Marx.
Bah quoi ?
Là, vous me demandez de le citer, je le cite, ça va, oh, elle était marrante, hein ? Pas autant que mon zéro, pas faux.
Si je peux vous parler de la Bulgarie, bah je dois avouer que je m'y connais pas trop en Bulgarie. Le foot, le ping-pong, le badminton, oui, mais la Bulgarie, j'ai jamais joué. Qui étaient les disciples d'Aristote ? Oh, facile, les Aristochats. Alors, vous voulez que je vous cite des œuvres de Céline ? Bah, je les connais pas toutes, hein. Mais il y a Pour que tu m'aimes encore, J'irai où tu iras, My heart will go on.
Louis XIV ? Bah oui, Louis XIV était le fils de Monsieur et Madame XIV. Et ils aimaient tellement la guerre qu'il y en a même une qui porte son nom. Bah oui, la guerre de 14.
Quoi ? Vous voulez que je vous en dise plus à propos de Spinoza ? Bah, certainement pas, je suis pas une balance, moi.
Les parents du général de Gaulle aimaient tellement les avions qu'ils ont donné à leur fils le nom d'un aéroport et d'un porte-avions.
Alors moi, je suis pas très bon à tout ce qui est oral, contrairement à Jessica de Terminal ES. Hein ? Ah, c'est votre fille ? Pardon.
Excusez-moi, vous pouvez reposer la question, il y a ma mère qui me parlait en même temps dans l'oreillette.
Ça s'appelait comment quand tous les pays d'Europe étaient en guerre ? L'Eurovision.
Europe 1. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1. François Guédon, Mickaël Quiroga, Ben H, Jean-Philippe Guizini et notre invitée, l'écrivaine Laetitia Colombani, pour son nouveau roman Les Victorieuses, qui vient de sortir aux éditions Grasset.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1 avec Mickaël Quiroga, yes. François Guédon, oh, Ben H, Jean-Philippe Guizini,
bonjour.
Et notre première invitée qui est réalisatrice, actrice et scénariste, mais c'est l'écrivaine que je reçois aujourd'hui. Après avoir écoulé 1 million d'exemplaires de son premier roman La Tresse, traduit en 32 langues, elle vient de publier Les Victorieuses, deux héroïnes, deux parcours, celui de Solène, avocate, qui après un burn-out devient écrivain public dans un foyer pour femmes en difficulté, et celui de Blanche, engagée dans l'armée du salut, qui va réaliser un projet fou, offrir un palais aux femmes exclues. Applaudissements pour Laetitia Colombani. Ouais, bonjour Laetitia Colombani.
Bonjour.
Alors vous avez réalisé 2 longs métrages,
oui.
Et après vous êtes passée à l'écriture du roman.
Oui, j'ai fait aussi un petit passage par la scène, j'ai travaillé sur la comédie musicale Résiste, que j'ai coécrit. Et puis j'avais envie de me lancer dans l'écriture de roman.
Parce que vous trouviez que le scénario c'était trop de contraintes finalement.
Oui, beaucoup de contraintes, des contraintes artistiques, des contraintes budgétaires, des contraintes liées à la production. Et puis, moins de recherche au niveau du style. On a moins de liberté aussi au niveau des mots, de la musicalité des mots. Donc,
Alors là, premier roman, un coup de maître, 1 million d'exemplaires, c'est incroyable.
Oui, c'est, je suis la première étonnée. Oui.
La tresse.
Oui, c'est un roman qui m'a emmené beaucoup plus loin que ce que j'avais imaginé, puisqu'au départ, j'ai écrit le livre pour une de mes amies qui est malade, qui a inspiré un des trois personnages du livre, puisqu'elle a un cancer et elle avait besoin d'une perruque. Et voilà, c'est en l'accompagnant choisir sa perruque que j'avais eu cette idée d'écrire ce roman pour elle, pour célébrer son courage et celui de toutes les femmes qui m'entourent. Et j'espérais trouver un éditeur, mais j'imaginais pas une seconde que le roman aurait cet accueil.
Et là, c'était la belle surprise.
C'était un cadeau. J'ai vécu ça vraiment comme une gigantesque surprise, un cadeau.
Parce que 1 million d'exemplaires, 32 langues.
Oui, j'ai pu voyager dans beaucoup de pays pour accompagner le livre.
Il est toujours en livre de poche, bien sûr.
Il est toujours en livre de poche.
Il continue à s'écouler.
Oui, oui, oui. Et puis, on a aussi publié un album pour enfants. Le roman est décliné pour les enfants. La tresse ou le voyage de Lalita. C'était aussi une nouvelle expérience de faire partager mon travail à des plus jeunes.
Et du coup, vous allez l'adapter en film maintenant ?
C'est en cours, oui.
Et là, vous pourrez réaliser le film.
Voilà, c'est ce que j'ai prévu de faire.
Oui. Ah, j'ai vraiment envie, la présence d'avoir une vie pourrie, moi. Faut arrêter ça, oui. Hein. Il vous arrive des malheurs de temps en temps, quand même.
Bah oui,
racontez
parce que
la fois
ouais,
où
je me suis cassé
quand vous avez eu la grippe, racontez-nous ça plutôt là.
Parlez-nous de ce roman Les Victorieuses d'Edissa Colombani qui vient de sortir aux éditions Grasset.
C'est un roman dont j'ai eu l'idée en passant par hasard devant un endroit très particulier à Paris qui s'appelle le Palais de la Femme. C'est un foyer d'accueil qui a été créé il y a presque 100 ans et qui est là pour les femmes qui ont eu un accident de vie, qui ont été abîmées par la vie. Et ces femmes sont là pour se relever, elles sont là parce qu'elles ont besoin d'un toit. Et elles forment une petite communauté qui ressemble à la Tour de Babel. On y parle une quarantaine de langues différentes. On y côtoie des femmes qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Afghanistan, des femmes aussi françaises qui fuient toutes sortes de difficultés. Certaines ont connu la rue, d'autres ont connu la violence conjugale.
Donc voilà. Vous êtes passée devant ce bâtiment et vous avez eu une illumination. Vous avez dit, je vais faire un autre best-seller.
J'étais en train d'écrire mon premier roman, La Tresse. J'étais en train d'espérer trouver un éditeur pour La Tresse. Et je m'étais dit, ça, c'est un lieu inspirant parce que c'est un lieu militant. C'est un lieu qui est tenu par l'Armée du Salut.
Donc là, raconté dans ce livre, Les Victorieuses, il y a le destin de deux femmes en parallèle. Une avocate qui fait un burn-out et qui devient écrivain public et qui se met à aider les femmes. Et la fondatrice, alors c'est la vraie fondatrice de cette, oui, maison des femmes.
Oui, oui, il y a les deux parties dans le livre. Il y a une partie qui est tout à fait réelle, celle qui est de 1926, qui parle de Blanche Perron. C'était la chef de l'Armée du Salut en France à l'époque. Et c'est elle qui a décidé de fonder un foyer pour aider les femmes qui étaient dans la rue. Et puis j'ai voulu entrecroiser ce destin de Blanche Perron avec celui, qui est une fiction, de Solène, cette avocate qui vient de faire un burn-out et qui entre dans ce palais de la femme. C'est un univers qu'elle ne connaît pas du tout. Elle vient de faire un burn-out. On lui a conseillé de faire du bénévolat. Elle ne veut plus être avocate. Elle cherche un sens à sa vie.
Et le burn-out, c'est quelque chose qui vous a frôlé, Laetitia Colombani ?
Non, moi, je n'ai pas été frôlée par le burn-out, mais des proches, oui. Et j'ai été étonnée de voir que certains amis, certains proches, à 40 ans, d'un seul coup, ont une crise de milieu de vie et cherchent un sens nouveau et ont besoin d'autre chose.
J'ai 39 ans, moi, ça va m'arriver.
Dites que vous avez souffert aussi, sinon ça va énerver Jean-Philippe.
J'ai beaucoup souffert, j'ai fait un énorme burn-out et là, j'en sors à peine. C'est bien là.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée Laetitia Colombani, venue nous parler de son dernier roman, Les Victorieuses, qui vient de sortir aux éditions Grasset.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Mickaël Quiroga, Ben H, François Guédon, Jean-Philippe Bizini.
Bonjour.
Et notre invitée Laetitia Colombani, venue parler de son roman Les Victorieuses qui vient de sortir aux éditions Grasset. Alors Laetitia Colombani, est-ce que ça met la pression quand on a fait un best-seller d'écrire un deuxième roman où vous vous dites j'ai trop eu de chance la première fois, est-ce que mes lecteurs vont me suivre, comment ça se passe ?
En fait, je me dis que c'était un cadeau. L'accueil de La Tresse, c'est quelque chose que je ne pouvais pas imaginer. J'ai pris tout ça comme un cadeau et je me suis dit voilà, c'était une fois, un premier roman, une fois dans une vie. Ensuite, je me suis concentrée sur le livre en lui-même que j'avais envie d'écrire. J'ai eu envie de parler de ce sujet qui me touche. J'ai essayé de faire abstraction du succès de La Tresse.
Alors, il y a un moment où l'héroïne croise un ex. Voilà. Elle s'apprête à faire demi-tour lorsqu'elle l'aperçoit de l'autre côté de la rue. Jérémy, accompagné d'une jeune femme et d'un enfant de 2 ans, Solène se fige, son cœur s'emballe, ses mains se mettent à trembler. Elle reste immobile, pétrifiée comme une biche prise dans un faisceau de phare la nuit sur une route isolée. Jérémy ne l'a pas remarqué, occupé à ramasser la tétine de son fils qui vient de tomber. Solène observe le petit garçon, une copie de son père, trait pour trait, une autre version de lui-même, fraîche, rayonnante, insultante de vie et de bonne santé, une version qu'on a envie d'étreindre et d'embrasser. Il ne voulait pas d'enfant, pas d'engagement, il le lui avait dit, ce choix Solène l'avait accepté. Cet enfant dont il ne voulait pas, il l'a fait une autre, voilà la vérité. On sent le vécu.
Tu vois qu'elle a souffert, Jean-Philippe.
Non, mais vous avez commencé le livre, faut finir. Hein,
vous voyez comme on est pris.
Ah ouais, on est pris dedans direct.
Alors, salaud, pourquoi il a pas fait d'enfant à la Solène là, pourquoi?
Non, il était lui-même avocat et puis Solène, elle travaillait beaucoup. Ils travaillaient tous deux beaucoup. Puis on dit que la durée de vie des couples d'avocats est très restreinte.
Ah
voilà,
bon
parce que trop de travail, pas assez de temps pour soi.
C'est un problème de barreau. Oula,
c'est dans le public, ils ont des vannes vraiment.
Et non, mais vous l'avez vécu cette situation de croiser un ex avec un enfant?
Non, c'est quelque chose que j'ai inventé pour le personnage de Solène, mais je voulais.
Ah, moi, j'étais sûre que vous l'aviez vécu tellement c'était bien raconté.
C'est-à-dire que c'est une romancière en fait.
Oui, mais quand même, on a l'impression que c'est.
J'invente beaucoup, mais en tout cas, je m'inspire de toutes les personnes qui m'entourent. Je m'inspire d'amis, je m'inspire de proches. Donc oui, c'est des choses qui arrivent. Et puis l'impression d'avoir la vie qui passe à côté de soi. Ça, je crois aussi que une vie de regrets, c'est aussi quelque chose que j'ai pu parfois ressentir jadis.
François Guédon a des choses à vous dire, Laetitia Colombani.
Oui, Laetitia Colombani, bonjour et merci d'être parmi nous, car pour mon plus grand plaisir, vous me donnez l'occasion de parler de littérature. Alors, vous êtes parmi nous pour la sortie de votre roman Les Victorieuses, qui raconte l'histoire de cette fameuse Solène, une quarantenaire un peu paumée, qui va devenir presque par hasard écrivain public. Alors, qu'est-ce qu'un écrivain public ? À première vue, on pourrait penser que c'était un écrivain qui écrit pour le journal public. Mais je vous rappelle que j'ai énoncé en préambule que nous allions parler littérature. Hein, et il y a autant de littérature dans le journal public que dans la biographie de Nabila.
Oui, François, vu la qualité de vos papiers, je ne sais pas si vous êtes le mieux placé pour parler.
Oui, pardon. Ouais. Excusez-moi.
On est soutenu.
Non, l'écrivain public, c'est celui qui écrit pour ceux qui ne savent pas écrire. Hein. L'ancêtre de l'écrivain public, c'est d'ailleurs le scribe de l'Antiquité. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de vous demander si c'est une bonne ou une mauvaise situation. Car je la connais très bien cette situation, puisque figurez-vous que je suis l'écrivain public de mes collègues autour de cette table. Alors pourquoi me direz-vous hein? Peut-être parce que je connais des mots de plus de 3 syllabes. La dernière fois j'ai employé le mot ubuesque, ils m'ont demandé si c'était une maladie.
François, moi aussi je connais des mots de plus de 3 syllabes comme licenciement par exemple, vous la connaissez cette maladie?
Pardon. Oui je la connais, je sens que je vais la contacter.
Ou salle de sport.
Oh non, j'ai fait des efforts. Mais en même temps, Anne, elle me fait pas trop peur. Le licenciement ne me fait pas peur parce que mes collègues me donnent énormément de travail. Hein, je m'occupe des rédactions des enfants de Jean-Philippe, des plaintes pour tapage nocturne de Mickaël, mais c'est Bénache qui me donne le plus de boulot. Je suis responsable de ces textos de rupture. Et je peux vous assurer que c'est un travail à plein temps. Hein, je vous lis le dernier que je lui ai fait. « Ce n'est ni l'insolence de ta beauté, la force de ton charme si raffiné ou la subtilité de ton esprit qui me fait te quitter. Si je veux m'éloigner de ton cœur, c'est parce que je ne suis pas à la hauteur. Car même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de te donner ce bonheur que tu mérites tant. »
Ça m'a coûté un bras.
Lui, il voulait mettre « Coucou, c'est fini, bisous ». Je me suis dit, il fallait rehausser un peu. Hein. En plus, on est mercredi et c'est déjà le 3e que je lui rédige. Je veux dire, moi, ma vie sentimentale, c'est un désert. La sienne, c'est la forêt amazonienne. Et si je ne devais choisir qu'un mot pour décrire cette situation injuste, ce serait « inique ». Inique en un mot, hein, évidemment, attention. Mais faisons fi de ces humbles gauloiseries, car Laetitia Colombani, je voulais juste vous dire merci. Merci de rendre hommage à votre manière à ceux que je considère comme les plus grands écrivains. Ce qui, loin de la pédanterie de salon, est loin des verbiages abscons.
Des quoi? Des verbiages?
Des oui, verbiages.
Ah, ça fait le malin avec des mots compliqués, mais oui, ça, c'est pas le prononcer. Ça
il écrit tout sur Google, tu sais, sur Google mec, Traduction, il comprend rien ce qu'il dit
mec,
en fait.
Il a des mots de 4 syllabes, il en prononce bien que 3. Mais...
Vous avez vu la jalousie autour de ce plateau, c'est terrible. Hein.
Loin.
Non, je voulais vous dire, loin de ces verbiages abscons. Ceux qui mettent leur prose au service des autres, sans jamais les juger, comme c'est le cas pour votre héroïne Solène, qui tout au long de ce roman passionnant, car au final, qu'importe les Balzac, les Beauvoir, les Hugo, la littérature, ce n'est que des femmes, des hommes et des mots.
Bravo.
Merci à vous.
Bravo.
Merci Laetitia Colombani d'être passée nous voir. On recommande chaleureusement votre dernier roman, Les Victorieuses, qui vient de sortir aux éditions Grasset. Merci à vous.
Merci à vous.
Nous, on se retrouve dans quelques instants. Nos invités seront Anna Mouglalis et Xavier Legrand. pour la pièce Mademoiselle Julie de Strindberg, actuellement au théâtre de l'Atelier à Paris.
Midi 30. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Mickaël qui regarde François Guédon, Ben H, Jean-Philippe Bizini et nos dreuses. Oh là. Et nos drôles invités ce matin qui sont actrices pour l'une et acteurs et réalisateurs pour l'autre. Elle a incarné Coco Chanel, Simone de Beauvoir, Juliette Gréco et même une présidente de la République. Lui, il a reçu cette année le César du meilleur film pour son long métrage Jusqu'à la garde, quelques années après que son premier court métrage ait lui été nommé aux Oscars. Il forme un duo dont le glamour illumine déjà ce studio. Il vient de nous parler de la pièce Mademoiselle Julie qui joue au théâtre de l'Atelier jusqu'au 30 juin. Les charismatiques et brillants Anna Bouglalis et Xavier Legrand sont avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Anna Mouglalis et Xavier Legrand.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Alors bonjour, vous avez une voix incroyable Anna Mouglalis.
En plus avec une petite laryngite.
Ah oui.
C'est le petit plus.
Mais quand, au téléphone parfois avec, là, quand, avec une pharyngite Anna Mouglalis, on va vous prendre pour un homme.
Ah mais toujours, toujours et depuis que je suis toute petite.
Ah oui?
Ouais, ça a toujours été mon histoire. Mais c'était pratique pour appeler les parents des copines et me faire passer pour l'adulte.
Vous disiez quoi, ma fille fait
que j'invitais, voilà, que j'invitais tout le monde.
Et c'était pas vrai?
Non. Non, non, mais ça a donné pas mal de liberté.
Et en même temps, quand on voit, on vous voit, on voit bien que vous êtes une femme, il n'y a pas de doute.
Ça, c'est sympa.
Non, mais vous êtes même une très belle femme.
Bah, vous êtes gentille, merci.
Il
n'y
a pas de doute, vous êtes sûre, là?
Alors là, vous êtes là tous les deux, Anna Mouglalis et Xavier Legrand, pour parler de la pièce Mademoiselle Julie. C'est une pièce qui avait fait scandale à la fin du 19e siècle, une pièce de Strindberg. C'est l'histoire d'une jeune aristocrate qui tombe dans les bras du valet de son père. Alors, le personnage a 25 ans et vous dites, Anna Mouglalis, qu'il faut beaucoup de maturité pour interpréter ce rôle.
Bah, c'est un rôle complètement fou. C'est vraiment les montagnes russes. Mais surtout, moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps avant de devenir jeune. Ça m'a pris des années. J'avais un esprit de sérieux. On dit, hein, je sais pas, il y a des gens qui disent que 20 ans, on laisserait jamais dire que c'est le plus bel âge du monde. C'est vrai qu'avec avec les années, les rencontres, le travail, j'ai gagné en jeunesse.
Mais vous fumez ?
Pas du tout. Mais ça va pas.
Parce que vous, non mais je veux dire, vous avez une voix de fumeuse, c'était pas une critique.
Mais encore une fois, un truc mystérieux, je sais pas.
Et vous, Xavier Legrand?
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être là.
Vous jouez le valet.
Oui.
Vous êtes comédien, mais on vous connaît comme réalisateur surtout, mm-hmm. avec ce film qui a eu un succès incroyable quand même.
Oui.
Jusqu'à la garde.
Jusqu'à la garde, effectivement. C'est mon premier long métrage.
Ah, dis donc. Combien de nominations au César?
10.
Et combien de César?
5.
Ah bah.
Ça fait 5 de perdu. Hein.
Ouais, c'est pas la peine de vous la péter.
C'est
hein.
C'est la peine de la moyenne.
Attention, son premier court-métrage nommé aux Oscars.
Oui, oui.
Et c'est le premier, vous avez même pas. Ah oui, d'accord.
Oui, non, c'est
de fou, vous avez de la chance en fait.
Oui, je suis.
Peut-être que vous étiez déjà réalisateur dans une vie antérieure ou...
J'en sais rien, c'est un truc qui est venu petit à petit. Hein. C'est vrai que je fais du théâtre depuis que j'ai 10 ans et j'ai vraiment fait des études pour. J'ai fait le conservatoire, j'ai fait plein de spectacles et j'avais une envie, moi aussi, de raconter des histoires et c'est venu comme ça.
Alors, c'est quand même une pièce où beaucoup, vous dites, beaucoup d'actrices se sont brûlées les ailes, ça les a détruites. Il y a eu beaucoup d'histoires autour de cette pièce, comme si elle suscitait des choses très violentes chez les gens, en fait.
Bah, la violence est au cœur de la pièce. En même temps, cette pièce est sublime parce que c'est une tragédie. Pour qu'il y ait tragédie, il faut absolument qu'on entrevoie la possibilité du bonheur. Donc, enfin, ce qui pourrait vraiment exister entre eux et qui serait sublime. Mais effectivement, ça va très, très loin dans les
mais
insultes.
Mais vous n'avez pas l'air déstabilisés tous les deux, ça va vous
mais non, c'est choisi. Et puis, vu le film qu'a fait Xavier, je ne pouvais pas tomber sur un partenaire dans lequel je pouvais avoir plus confiance, en fait.
Puis elle va pas s'engueuler avec lui alors qu'il va faire le numéro 2, peut-être.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec nos deux invités, Anna Mouglalis et Xavier Legrand, venus parler de la pièce Mademoiselle Julie de Strindberg, actuellement au théâtre de l'Atelier à Paris, dans une mise en scène de Julie Brochaine. Ne bougez pas.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça
fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Mickaël qui regarde, yes. François Guédon, Ben H, Jean-Philippe Vizini et nos deux invités Anna Mouglalis et Xavier Legrand. Vous nous venez de la pièce Mademoiselle Julie de Strindberg, actuellement théâtre de l'Atelier à Paris. Vous aviez jamais travaillé ensemble, Anna Mouglalis et Xavier Legrand. Comment s'est fait votre rencontre ?
Au Festival de Venise.
Au Festival de Venise.
Oui, c'est la classe. Hein. Ouais. Sur l'île du Lido.
Et alors, comment ça s'est passé ?
Je présentais mon film Jusqu'à la garde qui est en compétition. Et
moi, j'étais dans le jury. Voilà.
Et ça a été un grand moment pour vous, parce que, vous avez... parce que ce film avait été refusé à Cannes, c'est ça ?
Oui, mais bon...
Et là, la salle debout en larmes.
Oui, c'est la
standing
première...
ovation.
Exactement, ouais, c'est la première fois que je montrais le film au public et c'était très bouleversant. Et en plus, se recevoir deux lions, et notamment celui du meilleur réalisateur, alors que c'est mon
des
premier...
Des lions d'or, préciser.
Lions d'argent.
Lions d'argent, excusez-moi, lions d'argent.
C'est moins méchant.
C'est vous, oui.
Et deux lions d'argent pour ce film Festival de Venise.
Oui, c'était... C'est-à-dire que ça m'a aidé aussi à me sentir légitime en tant que réalisateur, parce que j'avais un peu de mal. Encore, je me considérais comme un acteur qui s'est mis à faire du cinéma, mais pas un vrai réalisateur. Et ça a été un moment très bouleversant pour moi.
Et vous, Anna Mouglalis, comment vous avez reçu son film de Xavier Legrand ?
Nous, on l'a vu en projection privée. On n'était pas... Parce que certaines projections, on est avec le public. Et là, donc c'était dans une toute petite salle. Donc, je m'étais dit, oh, ça craint un petit peu pour le film français. Parce que ça peut porter aussi la projection en public. Et ça a été fou quand le générique s'est terminé. Tout le monde, enfin, tout le jury est resté dans la salle pendant 10 minutes. Ça pleurait de partout. Donc, il y a eu vraiment une unanimité sur le film. Mais la question du premier film se pose souvent dans les jurys, parce qu'on se dit, comme il était déjà aussi dans le jury premier film, il aurait pu avoir, d'ailleurs il a eu le prix du premier film aussi à Venise, mais on en a tous beaucoup parlé, il y a un travail de direction d'acteur, parce que Xavier est un immense acteur, moi j'ai jamais pris autant de plaisir à jouer avec quelqu'un, non, même en répétition, certaines fois quand on n'a pas vraiment le courage d'aller à 10h du matin à fond. Il suffit de tomber dans les yeux de Xavier et on ne peut plus faire semblant. Donc c'est un plaisir inouï. Et on le sent dans son film. Il y a une direction d'acteurs. Bon, les acteurs sont de très grands acteurs. Mais il y a notamment un petit garçon qui est dirigé d'une façon... C'est insensé. Insensé dans plein de plans muets. Il est d'une intensité, quand on sait ce que c'est que de recommencer. À chaque fois, on recommence à zéro au cinéma, les prises. Non, c'est
comment vous avez fait pour diriger cet enfant aussi bien, Xavier Legrand ?
Ça a pris beaucoup de temps.
Le taser aussi.
Oui, deux, trois gifs aussi.
Si tu veux ton dessert, tu pleures pour ma scène. C'est ça, en
fait. Non, au contraire, justement. Pour dénoncer la violence, il ne faut surtout pas l'utiliser. J'ai essayé justement de le mettre en sécurité pour qu'il puisse aller là où il voulait.
Alors évidemment, tout le monde vous a demandé, est-ce que vous avez vécu, parce que c'est tellement bien raconté, la violence conjugale, tout le monde vous a demandé si vous en aviez vécu, vous avez dit non.
Non, bien sûr.
Vous avez écouté des témoignages de femmes ?
Beaucoup, oui, ça a été même plusieurs années de travail, où j'ai rencontré des victimes de violence conjugale, des adultes qui ont été des enfants.
Pourquoi ce thème-là vous a intéressé à ce point-là ?
Il est venu petit à petit, je voulais, moi je suis passionné de théâtre et je voulais travailler sur une tragédie.
Vous vouliez écrire une tragédie, vous n'avez pas réussi en fait.
J'ai pas réussi parce que je joue Strindberg et je ne pourrais pas rivaliser au niveau de l'écriture. Donc c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai décidé d'écrire pour le cinéma. Et j'ai découvert assez rapidement que la tragédie aujourd'hui, si on pouvait en trouver un équivalent, était la violence conjugale, qui dans beaucoup de faits divers et dans beaucoup d'histoires atroces est un peu le début de la violence qui amène au tragique.
En même temps, vous racontez aussi que quand vous étiez petit, vous étiez dans une famille patriarcale, votre père, il était le roi de la maison, on lui apportait ses chaussons, on ne pouvait pas lui couper la parole, il faisait pas à manger, racontez, c'est ça.
C'est une vie normale, quoi.
Et pas seulement mon père, d'ailleurs, aussi dans la construction de la famille du côté de ma mère, mes grands-parents respectifs, en fait. Donc, on était dans une...
Et vous, ça vous rebellait, quand même.
Oui, c'est quelque chose
qui... Ça vous énervait.
Très tôt, oui, ça m'a un petit peu insupporté de...
Vous vous déguisiez en femme, en plus, vous ?
Oui, et puis je faisais déguiser mes cousines en garçon. Je faisais des spectacles.
Il devait être content, votre papa.
Paradoxalement, ça le faisait rire.
Ouais. Comment il va, Xavier ? Parle-moi d'autre chose.
Non, paradoxalement, c'est quelqu'un quand même qui avait de l'humour et qui appréciait. Mais c'est vrai que quand j'ai voulu faire du théâtre, il aurait préféré que je fasse du foot, quoi. Mais il m'a laissé faire, donc voilà, c'était pas non plus...
Est-ce que vous n'êtes pas inspiré justement ça, de ce patriarcat dans ce film, où vous êtes servi de ce que vous aviez ressenti enfant quand même?
Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est le terrorisme patriarcal, oui, qui, moi, me meut.
Et vous, Gwenaëlle Mouglaïs, vous êtes très féministe, vous révoltez aussi. Vous reconnaissez tous les deux, parce que vous êtes rebelle et vous êtes révoltée. Mmh. Donc il y a un côté comme ça, vous ne supportez pas que les femmes soient écrasées.
Bah, qu'elle soit écrite, on a tous un rapport à une histoire de la violence, et notamment, en plus, je suis d'origine grecque, donc c'est un truc aussi, hein, par rapport au machisme. Enfin, le machisme français, c'est un des plus ancrés et des plus subtils, je dirais. Mais on voit même dans la pièce...
Mademoiselle Julie au théâtre de l'Atelier.
Ouais, exactement, parce qu'on y revient quand même. Non, mais c'est très étonnant de voir les rires se décalent en fonction des représentations, c'est du spectacle vivant, mais c'est très étonnant de voir les endroits auxquels les gens rient, qui sont pas du tout ceux auxquels on s'attend.
Il y a des gens qui rient et d'autres qui sont scandalisés au même moment.
Voilà.
C'est ça qui est intéressant. Quand même, il ne va pas lui dire ça.
Et donc c'est une pièce qui ne laisse pas indifférent.
Non, oui, oui.
Ça, non.
Ouais. Je crois que, oui, 100, je ne sais pas combien, 130 ans après, 1880, je suis perdu en maths. Mais aujourd'hui elle choque autant que lorsqu'elle a été écrite. Quoi.
Et vous avez toujours autant de plaisir à la jouer le soir, ou vous avez peur? C'est comme un rendez-vous, il faut que vous soyez à la hauteur de cette pièce qui quand même nécessite de sortir de soi des émotions très fortes quand même.
Pour moi, la peur est à la hauteur du désir que j'ai de la jouer. C'est d'ailleurs le trac, ça concentre aussi. Plus j'ai le trac, plus je plonge dans cette fiction et j'arrive à être au présent. Mais c'est vrai que ça fait le trac, certaines fois, ça fait mal.
Et vous, Xavier ?
Moi, c'est pareil. En plus, je suis plutôt traqueux, mais oui, le désir est quand même plus fort, et surtout la confiance que j'ai. Qu'on a mutuellement, on se porte l'un et l'autre.
Oui, parce qu'on racontait quand Adjani l'avait joué avec Nina Hirstruc, qu'ils se battaient vraiment sur scène.
Oui.
Je ne sais pas si c'était vrai, mais c'était les ragots qui couraient dans Paris.
Ils se battaient. Le personnage féminin doit mettre une claque.
Ouais.
C'est écrit.
Ouais.
Le personnage masculin n'est pas censé rendre la claque.
Non. Voilà. Bon, elle a mis un coup de tête ou deux, mais c'est tout. C'est pour ça qu'il ne faut pas être rancunier. Si elle m'en met une un petit peu fort, il ne faut pas dire « Oh, toi, je vais... » Non, non. Elle dit « Bon, Anna a mal visé ce soir, c'est pas grave, je l'aime quand même.
» On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec nos deux invités, Anna Mouglaïs et Xavier Legrand. Vous nous parlez de la pièce « Mademoiselle Julie de Strindberg », actuellement au théâtre de l'Atelier à Paris jusqu'au 30 juin. Ne bougez pas.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 avec Mickaël Quiroga, François Guédon, Jean-Philippe Bizini et nos deux invités Anna Mouglaïs et Xavier Legrand pour la pièce Mademoiselle Julie de Strindberg, actuellement au théâtre de l'Atelier à Paris. Quand on regarde ce que vous avez tourné, Anna Mouglaïs, Simone de Beauvoir, présidente de la République dans le Baron Noir, Coco Chanel, Juliette Gréco, Mademoiselle Julie, beaucoup de femmes fortes dans votre carrière. Vous avez déjà joué des femmes effacées, faibles ou éteintes? Non.
J'ai joué beaucoup, beaucoup. C'était tout le folklore du début de ma carrière, des objets du désir ou des femmes mystérieuses, ça on me l'a beaucoup dit. Mais ces femmes ne sont mystérieuses que parce que le scénario ne s'intéresse pas à elles. Donc oui, je peux dire que j'ai joué des femmes effacées. Ça se répétait un petit peu. Donc c'était pas très passionnant et j'ai pris le temps, enfin, le courage d'attendre qu'on me propose autre chose. Mais quand on m'a proposé Simone de Beauvoir, ouais, au début, il y a eu une levée de bouclier en disant c'est pas possible, c'est une intellectuelle, elle c'est un mannequin. Et puis ça s'est fait.
Mais cette voix, je vous jure, ouais. J'ai l'impression qu'on interviewe le téléphone rose. c'est très suave. Quoi.
Non, on sent le bon client quand même. Hein. Moi, c'est ça m'est pas facture, venu, toi. J'ai pas pensé.
Xavier Legrand, vous avez envie de faire tourner Anna Mouglaïs?
Oui, ça arrivera, ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est une actrice absolument prodigieuse, qui est une grande travailleuse et très intelligente. Donc, ouais.
Oui, elle a... Dites merci, on n'en pas entendu.
Ah oui, merci, merci.
Mais elle a un défaut au moins ou pas du tout?
Non. Non, non.
Comment, alors, votre père, et en revenant à votre père, Xavier Legrand, il est garde pénitentiaire, il travaille en prison, en fait.
Oui, enfin, il travaillait parce qu'il est décédé aujourd'hui.
Et votre maman était infirmière?
Oui.
Et vous avez toujours votre maman?
Oui.
Comment elle a réagi à votre succès incroyable?
Elle était heureuse, fière. même un peu étonné aussi de voir que du jour au lendemain, elle voyait son fils.
Il paraît
partout.
Que même quand elle avait plus d'argent, elle se débrouillait pour trouver de l'argent pour vos cours de théâtre.
Oui,
elle
nous a soutenu. Ouais, ça a été. J'ai eu la chance, les deux, d'avoir les parents qui. Même s'ils ont essayé, surtout mon père, orienter ce qu'on voulait faire, a quand même été à l'écoute. Donc oui, c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles où je ne pouvais plus assister aux cours parce que ma mère n'avait plus les moyens et elle a quand même réussi à trouver le moyen de que je puisse continuer ma
Mais
passion.
Vous l'avez remboursé depuis?
Non.
Non.
Ah non.
Avec des films privés et tout.
Vouana Mouglalis, c'est un milieu un peu plus fun, quoi. Vous avez un papa acupuncteur, une maman masseuse.
Mais moi, je suis partie très tôt.
Oui, vous vouliez partir de chez vous.
Je voulais partir, oui.
Pourquoi?
Le grand appel, c'est le vent d'autonomie.
Vous étiez pressée d'être grande, vous dites.
Oui, 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 de vivre. L'enfance, ça n'a jamais été mon pays. J'avais envie de vivre sans qu'on me dise quoi faire et puis sans subir non plus les tensions des uns et des autres. Le climat comme ça, éventuellement de violence familiale, c'était pas mon truc.
Ah bon, alors il y a des...
Donc, non,
ah,
je suis partie, mais on m'a pas...
Vous saviez?
Non.
Ah bah
non.
Voyez.
Vous avez vu la réaction d'Anne? Dès qu'il y a du malheur, on dirait ma concierge. Ah bon.
Alors je présente Ben H.
Qui lui
a du mal à sortir de l'enfance. Le sujet de la pièce vous donne forcément envie, Ben H.
Mais pourquoi vous dites forcément, Anne? Tout ça parce que cette pièce parle d'une femme qui libère tout son désir sur un homme socialement plus faible dans un lieu en vase clos, et que sur le papier c'est le pitch le plus excitant de Paris pour tout que t'as amoureux de belle prose. Oui, vous avez raison, Anne, c'est déjà une raison amplement suffisante, et puis ça me rappelle un peu le scénario de mon entretien d'embauche avec vous, il y a quelques temps. Tout un puissant jeu de séduction entre garde et sexe et jeu de pouvoir, le tout baigné dans une envie générale de baiser, hein, c'est pas que ça m'intéresse comme propos, c'est juste que ça me passionne. Et je vous l'avoue, hein, ça me rappelle tellement mes années de lycéen et cette convocation dans le bureau de Madame Nadeau. Ah là là, jeune CPE de l'Académie de Versailles qui m'engueulait vertement, abusant de son pouvoir de petit chef de l'éducation nationale sur mon modeste statut d'étudiant. Je sentais bien, autant par la rigueur de son discours que par le décolleté de son chemisier, qu'une tension sexuelle hantait le bureau. J'en étais convaincu. Il n'y avait pas que mon carnet que j'allais lui donner. Et puis, en fait, non. Non, pas du tout. Elle était vraiment juste vénère. Hein. Contre moi, elle a fini par convoquer ma mère. Là, j'ai compris que ça allait pas être très chaud. Et puis, j'ai pris 3 jours d'exclusion. Mais attention.
On est là pour parler de mademoiselle Julie.
C'est super important. Attention, mademoiselle Julie, c'est loin d'être le simple fantasme prépubère que j'ai présenté en introduction. On en est loin, je le sais bien. Là, a priori, d'après ce que j'ai lu, on parle d'un chef-d'œuvre qui fait écho à notre actualité. En plus, entre le mouvement MeToo et celui des Gilets jaunes, entre guerre des sexes et lutte des classes, ça agite les sens, mais en plus, ça en a du sens. J'ai bien compris, hein, que si la séduction était en effet un jeu avec cette pièce, on est plus sur un niveau trivial poursuite de luxe que sur des Black Burger Quiz. Hein. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je suis aussi un intellectuel. Et si en plus, c'est servi par une distribution de très haute volée des comédiens exceptionnel au sommet de leur art, et j'en fais pas du tout des tonnes parce qu'ils sont juste en face de moi. Non, je le pense sincèrement, Madame la Présidente. Bref, Anne, tout ça pour vous dire qu'il y a plein de raisons d'aller voir la pièce Mademoiselle Julie. J'y vais très bientôt. Merci de m'avoir
écouté. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec Anna Mouglalis et Xavier Legrand qui sont actuellement sur la scène du Théâtre de l'Atelier avec la pièce Mademoiselle Julie de Strindberg. Ne bougez pas, on revient.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Mickaël Quiroga, François Guédon, Ben H, Jean-Philippe Bisini et nos deux invités Anna Mouglalis et Xavier Legrand. Vous nous parlez de la pièce Mademoiselle Julie de Strindberg, mise en scène de Julie Brochen, actuellement au Théâtre de l'Atelier à Paris. Alors le public est là, j'imagine?
Le public est là, le public est là. On fait 30 représentations exceptionnelles, mais on espère aussi partir en tournée et puis peut-être le reprendre même à la rentrée.
J'aimerais savoir, Xavier Legrand, dans ce milieu du cinéma, quand vous êtes arrivé avec cette histoire de film de violence conjugale, on ne vous a pas accueilli à bras ouverts. Ce n'est pas un sujet, on vous a dit certainement que ce n'était pas commercial. Vous avez dû avoir du mal, même si votre producteur vous soutenait. Ça n'a pas dû être évident de convaincre les gens.
Eh bien, pas tant que ça, en fait. J'ai eu la chance de faire le court-métrage. C'est vrai que quand on fait des courts-métrages, il y a plus de guichets, il y a plus de tentatives. On on est beaucoup plus libre. Et comme mon court-métrage était déjà avec Léa Drucker et Denis Ménochet...
C'était comme une bande-annonce de ce film, en
oui,
fait.
Oui, bon, ça se passe un an avant, donc c'est vraiment deux films, enfin deux histoires, les mêmes personnages, mais qui traversent des moments différents de leur vie. Mais du coup, je pense que c'est... comment dire...
Vous vouliez faire trois volets, d'ailleurs, au oui, départ. Oui, après, vous avez tout mixé.
Ouais, j'ai fait finalement un long. Mais du coup, ils avaient identifié très clairement le film que je voulais faire, avec le scénario écrit et le court-métrage. Du coup, ça a été plutôt facile.
Et vous, Anna Mouglalis, le cinéma?
J'adorerais réaliser. J'ai fait un court-métrage aussi, mais c'était un court-métrage porno. Oui.
Ah bon, c'est quoi le titre? C'est quoi le titre?
Les filles, c'est ça.
Parce que je suis très ciné, moi, personnellement. Ah
ouais. Non, c'est vrai, c'était produit par Marc Dorcel.
C'est vrai,
non, vous êtes sérieux?
Oui, non, parce qu'il y a eu une collection il y a quelques années qui s'appelait X-Femmes.
D'accord, c'était une femme qui réalisait des femmes réalisatrices.
Exactement.
Vous en avez fait un?
J'en ai fait un, dans lequel j'ai pas tourné de pornographie, mais dans lequel je jouais avec l'attente de la scène pornographique. Et j'avais trouvé ça immense de réaliser. Donc, je suis en écriture aussi. Et je solliciterai. Non, la scène, ça n'a plus rien à voir. Mais ce court-métrage porno est l'adaptation d'un poème. Un grand poème.
Ah oui.
Alors
je vais être déçu.
Vous êtes folle d'une poétesse. Moi, je n'ai jamais entendu parler. Dites-moi le nom. Pour lui.
Marina Tsvetaeva.
Jamais entendu parler.
C'était un poème.
Vous connaissez des poèmes d'elle par cœur?
Pas par cœur. Parce qu'il y a des poèmes très très longs aussi. J'en ai enregistré un là, il n'y a pas longtemps, aux éditions des femmes. Je vous l'enverrai. Mais c'est sublime. En plus, elle a écrit tout d'abord en russe et elle en a fait elle-même la traduction en français. Elle réinvente la langue, ça date des années 20 et elle fait des accélérations dans le français.
Ça vous a pas donné envie de faire un spectacle sur cette poétesse que vous aimez tant ?
Si, mais j'ai envie de plein de choses. De plein de choses. Mademoiselle Julie, là, c'était un rêve qui se réalise. Tout vient petit à petit. Puis ensuite, je repars avec Xavier. Dans Mademoiselle Julie, il est mon valet. On n'arrive pas vraiment à vivre cette histoire. Alors qu'à partir du mois de janvier, il sera mon mari.
Dans quoi?
Dans un...
film porno.
une pièce écrite par Fabrice Melchiot autour du personnage de Diane Arbus, la photographe.
D'accord. Et vous, Xavier Legrand, est-ce que le succès du film amène des gens au théâtre ou pas du tout? Les gens font pas le lien entre Xavier Legrand l'acteur et Xavier Legrand le réalisateur?
Je crois pas que non. J'ai pas l'impression. Il y a sans doute oui quelques personnes qui sont bien d'accord. On va voir comment il joue puisqu'il a voilà. Mais j'ai pas l'impression que ce soit.
Relié.
Ça reste encore très
segmenté.
Segmenté, oui. C'est-à-dire que je suis connu par le grand public en tant que réalisateur et ils ignorent que je suis acteur de théâtre.
Mais après cette émission, tout va changer. Vous êtes au courant?
J'espère. J'espère. Merci Anne.
Europe 1. L'histoire de la semaine.
On a une tradition dans cette émission. Chaque jour, on démarre une histoire qui est poursuivie par les invités. Elle a été démarrée lundi par Alexandre Jardin. Hier, poursuivie par la journaliste Raphaël Baquet. À vous de la poursuivre avec un mot pioché au hasard, Anna.
César.
Donc, écoutez le début de l'histoire. Il faut la poursuivre en une ou deux phrases et vous pouvez intervenir aussi.
Un roman extraordinaire commença lorsqu'il vit une femme sans beauté qui le bouleversa.
Il aurait voulu partir avec elle pour une grande histoire d'amour, mais il avait un reportage sur le feu et il l'abandonna.
Il s'appelait César et il était d'un ennui profond.
Merci Anna Mouglalis et Xavier Legrand d'être passé nous voir. On rappelle que vous êtes actuellement sur la scène du théâtre de l'Atelier. Dans cette pièce, Mademoiselle Julie de Strindberg, mise en scène par Julie Brochen. C'est uniquement jusqu'au 30 juin 2019. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. On sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.